France Culture.
Les nuits de France Culture.
8. Anonyme. Le monde, autrefois, était-il si triste ou l'est-il devenu pour moi seulement? 9. Un homme. Plus fugitif même que l'écriture de nombre dans l'eau qui court et d'aimer quelqu'un sans retour. 11. Ono no Komachi. La couleur des fleurs passa, les fleurs elles-mêmes fanèrent, tandis que vainement, je vivais mon temps en ce monde où tombaient les longues pluies. Mono no Aware, le recueil de Jacques Roubaud d'où sont extraits ses courts poèmes, peut être traduit comme « la sensibilité pour l'éphémère ». Chacun de ses poèmes, inspiré du Manyoshu, le plus ancien recueil de poésie japonaise qui nous est connu, datant du 7e siècle, semble figé dans le temps à un moment d'une simplicité absolue. Une pensée nostalgique, un éclair, le passage d'une saison à l'autre, ou encore une interrogation sur la nature même de l'existence. Mais ce n'est pas ici une vulgaire imitation ou une traduction de cette poésie japonaise si méconnue en France. C'est un hommage, une appropriation, un souffle nouveau qui est donné dans cette rencontre entre une forme singulière et une langue qui lui est entièrement étrangère. C'est de la jeunesse de cette œuvre et des modalités bien particulières de la poésie japonaise dont vient s'entretenir Jacques Roubaud, au micro de Jean-Louis Cavalier dans ce numéro d'Arcane 70, présenté par Roger Pilaudin. Une émission diffusée pour la première fois le 10 décembre 1970 sur France Culture.
Puisque je pense que le réel n'est réel en rien, comment croirais-je que les rêves sont rêves?
Chaque texte de Mono no Aware a pour point de départ un poème japonais ancien composé avant le milieu du XIVe siècle. Le choix de tel sujet peut prêter à malentendu. Soit un poème intitulé « Port de Concarneau sous la pluie ». C'est un poème japonais qui joue pour nous le rôle du port. C'est peu ou beaucoup, comme on voudra. La situation est encore plus satisfaisante si le poème japonais est un poème intitulé en japonais « Port de Concarneau ». C'est ce qui se présentera souvent dans « Mono no Aware ». La plupart des poèmes de « Mono no Aware » sont des tanka, de 31 syllabes en 5 vers, selon le schéma 5-7-5-7-7. Ils sont écrits de haut en bas et de droite à gauche, à l'aide d'idéogrammes chinois et d'alphabets syllabiques dérivés. Ces signes, très appréciés des connaisseurs pour leur grande richesse décorative et connotative, ne s'accommodent pas aisément, contrairement à ce que l'on pourrait croire, de contextes étrangers à leur lieu d'origine. On n'en trouvera aucun dans Mono no Aware. Jacques Roubaud a utilisé au contraire une transcription traditionnelle, celle-là même qui est donnée dans le petit livre qu'Arthur Wallé a consacré à la poésie japonaise, The Uta. C'est une transcription syllabique qui doit s'entendre, selon Wallé, pour les voyelles comme en italien, pour les consonnes comme en anglais. Les syllabes d'une transcription de Tanka jouent dans ce livre, Mono no Aware, le rôle d'éléments prosodiques et typographiques d'un poème. Elles font partie d'un poème et fonctionnent à la manière d'un accompagnement musical. En 1834, l'orientaliste allemand Heinrich Julius Klaproth, voyageant aux confins extrêmes de la Sibérie, recueillit de la bouche de pêcheurs et bandits japonais un fragment déformé d'un poème au Manyoshu, vieux de plus d'un millénaire. La version qu'il en donne, la première sans doute dans une langue occidentale, n'est guère plus que les nôtres une traduction. Pfitzmaier, qui consacra de nombreuses années de son existence au Manyoshu, était, dit-on, si fasciné et absorbé par sa tâche qu'il n'a pris la nouvelle de la guerre de 1870 qu'un an après, dans un journal japonais parvenu avec grand retard à Vienne. On voudra bien considérer les emprunts du livre de Jacques Roubaud, Mono no Aware, comme un nouvel et tardif témoignage de cette fascination. Pourquoi Jacques Roubaud, auteur de « Et », professeur de mathématiques à Nanterre, pour son dernier ouvrage « Mono no Aware », publié chez Gallimard, a-t-il choisi pour point de départ des poésies japonaises anciennes ? Il répond à Jean-Louis Cavalier.
D'une part parce que c'est une des poésies qui me frappe le plus dans les poésies étrangères, et peut-être aussi parce que c'est une des poésies les plus distantes de la nôtre, et je pense qu'il est, bon de se séparer un petit peu de la tradition habituelle en poésie.
Est-ce que les poèmes japonais que vous avez choisis sont tous de la même époque ?
Ça couvre une période quand même assez longue, puisque, disons, les premiers textes que j'ai utilisés doivent remonter à peu près au 7e siècle, et les derniers au début du 13e.
Et vous avez choisi vos poèmes parmi des anthologies, je crois.
Oui, j'ai choisi les poèmes à peu près essentiellement dans ce qu'on appelle les anthologies impériales. D'une part, un grand recueil, le premier grand recueil de poésie japonaise, qui s'appelle le Manyoshu, qui date, disons, de la fin du 8e siècle, et d'autre part, ce qu'on appelle les anthologies impériales, c'est-à-dire des anthologies rassemblées à la demande de certains empereurs entre l'an 1000 et 1250, pour simplifier.
Pourquoi les empereurs demandaient-ils ces compilations ?
Bien, ça donnait du lustre à leur règne. D'autre part, ça correspondait à l'idéal de la vie de cour japonaise, qui est un idéal très imprégné d'esthétique.
Est-ce que la poésie avait un rôle particulier à jouer dans ces cours ou dans le Japon tout entier ?
Disons que elle ne joue pas un rôle social direct, mais elle a certainement une grande influence sur la manière de vivre des courtisans de la cour impériale et de leurs appendices dans les provinces, puisque ce sont en général des courtisans qui étaient envoyés comme gouverneurs de province. Alors les poèmes que l'on lit, que l'on apprend par cœur, que l'on s'envoie, que l'on s'offre, tout ça fait partie du rituel de la vie de cour.
La deuxième anthologie, je crois, c'est le Kokinshu.
La première Kokinshu. Anthologie impériale, qui est la deuxième grande anthologie japonaise, s'appelle le Kokinshu.
Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?
Oui, considérablement. Disons qu'à partir du Kokinshu et les anthologies suivantes, beaucoup des aspects peut-être un peu sauvages et brusques de la poésie du Manyoshu, de la première poésie japonaise, ont été gommés et c'est devenu quelque chose d'extrêmement stylisé et limité, à la fois dans ses thèmes et dans ses expressions.
Je pense, là, vous avez transcrit page 122 de votre livre, « Si le sujet le coucou, le poète doit chercher le coucou par monts et par veaux et décrire son chant comme il l'a entendu. Mais jamais il doit dire qu'il a entendu le chant du rossignol. » Pourquoi cette distinction entre les oiseaux ?
C'est une distinction, autant que je puisse la saisir, parce que bien entendu, je dois préciser que je ne suis qu'un amateur en poésie japonaise. Autant que je puisse comprendre cette distinction, c'est beaucoup une distinction traditionnelle qui a trait à la saison. Le coucou et le rossignol n'étant pas des oiseaux de la même saison, il ne faut pas les traiter simultanément. D'autre part, pour chacun de ces motifs fondamentaux, il y a des manières de traiter qui sont consacrées par la tradition et que l'on respecte de génération en génération ou que l'on fait semblant de respecter.
Est-ce qu'ils ne veulent pas dire qu'il y a des sujets plus poétiques que d'autres ?
C'est bien entendu ce qu'ils veulent dire. Mais la nature du sujet poétique est déterminée beaucoup par la tradition.
On parle beaucoup de nature dans les poèmes japonais. Est-ce que cette nature correspondait au paysage japonais ?
Je me pose même la question quelquefois, dans quelle mesure le paysage japonais correspond à la poésie japonaise, dans un sens inverse, c'est-à-dire le paysage est modelé selon la poésie. Disons qu'au début, les poèmes du Manyoshu choisissent dans le paysage extérieur qui est en train d'être modelé par l'homme, les objets qui auront une valeur poétique considérée comme forte, qui sont soit des oiseaux, soit certaines plantes, certains motifs du traitement de la nature. D'ailleurs, assez varié, regardé avec beaucoup plus d'attention que ne le fait la poésie occidentale avant le 19e siècle. Mais ensuite, il est très significatif que pendant toute la période de la poésie de cour, pendant toute la période de l'Empire, et même plus tard, quand les Japonais construisent des jardins ou quand ils modèlent la nature, elle se conforme beaucoup à son traitement par la poésie.
Alors, ce sentiment des choses, comment se traduit-il au cours de cette évolution de la poésie ? Est-ce qu'il s'enrichit ou est-ce qu'il reste identique à lui-même depuis le début ?
Au début, c'est plutôt un sentiment de surprise et d'émerveillement devant ce qui se passe dans la nature, aussi bien la chute des feuilles en automne que le coucher du soleil ou le lever du soleil. Ensuite, ça devient beaucoup plus stylisé, beaucoup plus à la fois concentré et limité, et il est certainement porté plus d'attention aux sentiments que produisent les choses presque indépendamment de leur évocation directe. Et en plus, ce sentiment devient nettement pessimiste, dirais-je. C'est un sentiment de tristesse, beaucoup.
Et pourquoi ça se transforme justement en sentiment de tristesse ? Est-ce qu'il y a une raison à cela ?
Il y a certainement beaucoup de raisons. Une en particulier est conforme à l'éthique à coloration bouddhiste de l'époque impériale finissante, qui est déjà extrêmement menacée dans son pouvoir par la caste des militaires. Il y a un sentiment de d'effondrement des valeurs éternelles qui apparaît et qui colore un point de vue très pessimiste sur la vie personnelle des individus. Le sentiment de la fugitivité des choses.
Et ce qui est curieux, c'est que ce sentiment des choses condamne à la fuite, enfin la fuite au désert presque, ou retrouver dans la nature l'idéal humain.
Oui, d'une part, cela conduit à la fuite des choses fugitives de la vie de cour et de la vie urbaine, mondaine. Et d'autre part, cela conduit à la solitude, c'est sûr. Alors, le dernier concept lié au mono no aware, au sentiment des choses, c'est celui autour du mot sabi, qui veut dire à la fois rouille et solitude.
Ici, très loin, dans ce creux entre les rocs, ici vivant seul, ici où nul ne peut me voir, je penserai à des choses.
Est-ce que, justement, cette différence de culture, cette différence dans le temps, ne vous a pas posé des problèmes de traduction. Est-ce qu'il y a traduction d'abord ?
Je pense pas qu'on peut parler de traduction, d'une part, parce que pour, si l'on veut traduire, il faut connaître parfaitement à la fois la langue et la civilisation de la langue que l'on traduit, ce qui n'est pas mon cas. Mais, et d'un autre côté, la distance à la fois de la langue, de la civilisation, de la manière de voir est tellement grande que je pense qu'une traduction est presque impossible. Donc ce que j'ai essayé de faire, ce n'est pas du tout une traduction. J'ai pris cette poésie, essayé de la comprendre du mieux possible, mais dans un but beaucoup plus humble, qui est d'écrire des poèmes moi-même.
Quelle est la forme du poème japonais ?
La quasi-totalité des poèmes que j'ai étudiés et que j'ai pris pour ce livre sont ce qu'on appelle des tanka. C'est une forme fixe. C'est un poème très court, en 5 vers, qui font en tout 31 syllabes, disposées en 5, 7, 5, 7, 7.
Est-ce que vous avez gardé cette organisation ?
Pas du tout. Moi, je ne me suis pas limité à 31 syllabes. J'en ai quelquefois moins, quelquefois un petit peu plus. De toute façon, je n'ai pas compté.
C'est cela. Il y a deux choses aussi importantes dans la poésie japonaise. C'est ce qu'on appelle la parole oreiller et le mot pivot.
Ce sont deux techniques de la poésie japonaise des premiers temps. Le mot oreiller est surtout employé dans le manyoshu. Ça fonctionne un peu comme l'épithète homérique. C'est-à-dire que s'il y a une montagne, il est difficile de l'escalader. Alors là, il y a une suite de syllabes qui peuvent entrer dans un vers ou faire une partie d'un vers et qui seront liées à certains mots qui les accompagneront un peu comme l'oreiller accompagne la tête. C'est le makura kotoba. Ceci fonctionne un peu comme un archaïsme dans la poésie qui suit, où l'on emploie plus volontiers un autre procédé qui est celui du mot pivot, le kake kotoba. C'est une sorte de jeu de mots. On prend deux ou trois syllabes, par exemple les syllabes nagame, qui peuvent vouloir dire d'une part quelque chose qui est, disons, une rêverie, et d'autre part, en séparant naga et ame, ça désigne les pluies, les longues pluies de l'automne. Alors, dans un poème, par exemple, les premiers vers se termineront par les syllabes nagame, où le nagame sera pris au sens de rêverie, et ensuite la fin du poème pivotera. Et Nagame devrait être pris au sens de longue pluie. Cela fait des liaisons et des charnières dans un poème.
Est-ce que vous pensez que ça peut être une source d'inspiration poétique pour vous ?
Disons, cela fait partie c'est une contrainte extérieure. C'est une contrainte extérieure qui n'est pas prise dans la tradition poétique, ma propre tradition poétique, celle de la poésie française ou accessoirement des poésies anglaises ou autres. Et c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait extérieur aux manières d'écrire que l'on peut avoir. Et par conséquent, donne une contrainte peut-être assez stimulante.
Et est-ce que vous avez pu découvrir ce sentiment des choses grâce à la poésie japonaise ?
Je ne sais pas si j'ai découvert le sentiment des choses de la poésie japonaise, mais disons que pour moi, personnellement, c'est un concept assez important.
De notre amour, qui peut savoir ? Le fin oreiller seul, si quelque chose sait, sait. Bien que j'ignore si quoi que ce soit ici, honorablement, daigne être dans une terreur extrême, mes larmes jaillissent.
<t'->
dans un arbre. Debout près d'un champ désolé, une voix de tourterelle criant pour ses compagnons. Crépuscule. Seul. Terrible.
Dans votre recueil, on n'a pas toujours affaire à de la poésie. On envisage déjà le cas de la prose, en particulier de Komachichou. Qui était cette femme ?
C'est une des poétesses dont les poèmes apparaissent dans la première grande anthologie impériale, le Kokinshu, et qui est sans doute une des plus grandes poétesses japonaises de cette période. Mais en même temps, c'est un personnage de légende dans la littérature japonaise. Et la vie légendaire de Komachi a été beaucoup utilisée par les auteurs de No, du théâtre No, beaucoup plus tard, au XVe siècle. Un des No consacrés à Komachi raconte un concours de poésie, un de ces concours qui était présidé par l'empereur et où les concurrents récitaient des poèmes qui était ensuite discuté, souvent critiqué violemment par les membres du jury, disons, et on décernait ensuite le prix. Dans un des nos consacrés à Komachi, on raconte qu'un de ses rivaux, ayant entendu au moment où Komachi le déclamait pour se préparer au concours du lendemain le poème de Komachi, se rend compte qu'il ne pourra pas vaincre Komachi d'une manière loyal et a recours à un stratagème assez honteux. Il note le poème. Le lendemain, le concours commence. Komachi récite son poème. Tout le monde s'extasie et son adversaire alors déclare que ce qu'elle a fait est une escroquerie, une fraude, car le poème se trouvait déjà dans le grand recueil sacré de la poésie japonaise, le Manyoshu. Ce qu'il avait fait, c'était tout simplement de voler un exemplaire du Manyoshu dans la bibliothèque impériale et de décrire le poème de Komachi. Et Komachi est sauvé par l'épreuve de l'eau, car en plongeant le livre, le Manyoshu, dans le courant de la rivière qui traverse les jardins du palais, le poème récent, qui est une interpolation, s'efface. Son encre n'est pas aussi noble que celle qui avait servi à écrire le Manyoshu, le vrai, et les autres poèmes restent.
C'est la légende.
C'est une légende, bien entendu.
Enfin, traduit bien l'atmosphère qui présidait à ces...
Absolument, et l'importance à la fois de la poésie et dans la poésie de la tradition.
Est-ce que le sentiment des choses subit une transformation dans cette prose féminine ou dans cette poésie féminine ?
Non, je ne pense pas qu'on distingue une différence marquée entre la poésie écrite par des femmes et celle écrite par des hommes.
Est-ce qu'elles n'étaient pas dans des conditions différentes ?
Elles étaient certainement dans des conditions différentes. En particulier, toute la grande prose de l'époque, Eian, je pense surtout au très grand roman de Murasaki Shikibu, le roman de Genji, cette prose est écrite par des femmes. Ça tient au fait que les femmes n'étaient pas censées apprendre le chinois, qui était réservé comme langue noble aux hommes, et que la prose japonaise a donc d'abord été écrite par des femmes.
Le chinois serait pour les érudits japonais l'équivalent de notre latin ou grec. On peut
Absolument.
Composer en grec.
Je crois que la comparaison est très, très juste. Ça joue beaucoup le rôle du latin. C'est une espèce de référence sacrée, et en même temps, c'est l'expression de la culture, de ce qui est digne et noble.
La dernière anthologie, est-ce que c'est une anthologie d'abord, Ise Monogatari ?
Non, le Ise Monogatari, ce n'est pas, c'est une compilation de poèmes, mais c'est une sorte de début du roman en prose, parce que les poèmes sont accompagnés de textes plus ou moins explicatifs qui racontent une histoire destinée à mettre en valeur le poème. Et un lien assez lâche lit les textes et fait une sorte de récit centré autour du personnage du poète Narihira.
Et est-ce que cette aventure, cette histoire, rend compte du sentiment des choses ?
Un peu, oui. Ce sont donc des aventures dont on raconte qu'elles sont arrivées au poète Narihira, mais il y a en particulier un des poèmes les plus célèbres de la poésie japonaise, où, revenant un an plus tard en un lieu où il avait aimé une femme qui depuis l'avait abandonnée, qu'il ne voyait plus, il regarde la lune et il se demande, est-ce que c'est vraiment la même lune ou est-ce que c'est moi qui ai changé ? Et je crois que le lien entre les choses et le sentiment qu'elle provoque est particulièrement sensible dans ce poème.
L'homme interroge les choses pour essayer de se trouver. Est-ce que c'est ça qu'on trouve dans tout votre livre ?
C'est cela, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont cette interrogation est faite, qui est une manière qui est totalement inconnue à la poésie occidentale.
Et c'est cela qui vous a séduit ?
C'est une des choses qui m'a intéressé.
Est-ce que ça fait partie d'un jeu ?
C'est évidemment aussi un jeu de construction. Il s'agit de construire un livre de poèmes à partir de poèmes extrêmement courts, puisqu'ils ont, ces poèmes japonais n'ont 31 syllabes. Et on peut en construire, ce que faisaient d'ailleurs les Japonais, des séquences où chacun des poèmes prend une nouvelle valeur à cause des poèmes qui le précèdent ou le suivent.
Dans vos notes sur la présentation et la traduction des textes, vous dites « Le choix de tel sujet peut prêter à malentendu. Soit un poème intitulé « Port de Concarneau sous la pluie ». C'est un poème japonais qui joue pour nous le rôle du port. C'est peu ou beaucoup, comme on voudra, si vous voulez dire. »
Je veux dire que ce que j'ai fait, ce n'est pas une traduction. J'ai pris les poèmes japonais comme départ et point et prétexte pour un poème, et un poème écrit en français. Et c'est bien entendu, de ce point de vue-là, c'est exactement comme le port de Concarneau si on en fait un tableau.
Est-ce que la disposition des poèmes japonais vous a gêné ?
L'écriture japonaise, que je ne lis pas, évidemment, est très différente de la nôtre, puisqu'ils écrivent de haut en bas et de droite à gauche. C'est très élégant, mais assez impénétrable. Dans la transcription que j'ai donnée, j'ai donné une transcription romanisée des syllabes du poème, et je les ai écrites de manière normale pour un occidental.
Pas toujours normal, puisque parfois vous disposez une sorte de liste de vers qui permet une lecture diagonale, une grande liberté de l'œil, en même temps permet de voir beaucoup de choses.
Oui, mais disons,
télescopage de vers qui font apparaître des choses très souvent cachées.
Oui, mais ça fait quand même partie de la manière de traiter la poésie qui nous est habituelle. Ça n'a plus rien de japonais.
Sur la route de Karou, oie sauvage à travers le ciel, est le village de mon amour. Et violemment je rêvais de la voir, malgré les yeux fixés sur moi. Je rêvais notre rencontre, branche du Katsura, et je vivais confiant, comme le pilote d'un grand bateau, l'aimant toujours. En secret, ainsi. Une petite flamme dans le silex, une eau profonde dans le roc, le soleil à travers le ciel se pose. La lune brillante se cache sous les nuages, et mon amour qui s'appuyait sur moi comme l'algue sur la vague s'est évanoui. Rouge feuille de l'érable, le messager est venu. La nouvelle fut comme le bruit de l'arc. Je ne sais que faire ni que dire. Je cherche dans mon cœur apaiser un fragment des mille fragments de mon amour. Comment vivre, n'entendre que cela ? Je vais sur la route de Karou, où mon amour si souvent m'attendait. Je vais, j'écoute, guettant sa voix, mais seulement les oies crient sur Unbi. Ô nuque gracieuse, comme des bandelettes au poignet de ceux qui vont sur la route. Javelot, pas un ne lui ressemble. Et rien ne me reste plus que crier le nom de mon amour en secouant mes manches. Sur la montagne d'automne, les feuilles rouges sont épaisses. Je cherche mon amour égaré, mais je ne sais pas le chemin. Dans la chute des feuilles de l'érable, je vois le messager, sa branche d'if, et pense à nos jours ensemble.
C'était un numéro d'Arcane 70 de Roger Pilaudin et Jean-Louis Cavalier, avec le poète et mathématicien Jacques Roubaud, diffusé pour la première fois le 10 décembre 1970 sur France Culture.